Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre émission On refait le match où nous allons avoir le plaisir d'avoir une fois de plus un invité prestigieux et dont une des grandes qualités est de livrer sa pensée sans détour. Luis Fernandez sera avec nous pour nous expliquer sa vision du football et bien sûr balayer toute l'actualité. Nous parlerons du mercato franco-français, du Conseil d'État. Son avis doit être rendu lundi par rapport aux appels de Toulouse, Amiens et de Lyon. Le Paris Saint-Germain, ça bouge toujours un petit peu à Paris avec Neymar peut-être coincé au Brésil, Thiago Silva et son avenir. Et puis Cristiano Ronaldo qui est entré dans la cour des milliardaires. Nous sommes avec Philippe Sansfourche et Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Nous accueillerons évidemment après la demi-heure avec Luis Fernandez, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France et David Aiello pour débriefer et puis les auditeurs sélectionnés par notre ami Baptiste Durieux. C'est Damien Béchiot qui réalise cette émission avec Axeline Thiébault. On les salue. A tout de suite sur RTL. Merci.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir.
De 7h.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Eric Silvestro et Philippe Sansfourche d'RTL. Et puis tout à l'heure, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France et David Aiello. Nous avons un invité prestigieux, je vous le disais, après Didier Quillot de la LFP. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, Laurent Nicolin de Montpellier, Antoine Comboiré, Nicolas Olvec, le président de Rennes. Maintenant, c'est Luis Fernandez qui est avec nous. Luis, bonsoir.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Comment ça va, Luis ?
Je passe derrière les présidents, c'est bien ça.
Pas du tout. Pas du tout. Vous vous intercalez entre ces présidents.
C'est peut-être un signe annonciatif de quelque chose.
Non, pas un signe. Je ne compte pas me présenter à la présidence de la fédération, messieurs. Je vous le dis direct. C'est
merci, Luis. Voilà. À la prochaine. Luis, pourquoi être intervenu la situation vous a encouragé à le faire, mais c'est quoi cette intervention ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose ou c'est un appel à, vous avez mis également l'exergue sur l'étranger.
Denis, oui. Allez-y, Luis. C'est quoi ? C'est un sport collectif, non ?
Oui.
Ça se joue ensemble. C'est l'équipe de football. C'est l'équipe qui doit partager, qui doit s'engager ensemble, qui doit défendre ensemble. Et pendant le confinement, excuse-moi de te le dire, j'ai eu des petits problèmes, des petits soucis. Quand tu es chez toi, quand tu regardes, quand tu les écoutes, qui écoutent ce beau monde parler, s'exprimer, tu vois que beaucoup s'expriment, beaucoup donnent un avis et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord. Et il y a une division dans le football. Et je pense que le football, il faut jouer collectif, il faut jouer ensemble. C'est ce qui m'a semblé. C'est pour cela que j'ai pris les devants d'appeler ces garçons de 84 et de 98, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Attention, hein. On n'est pas en train de dire qu'on veut tout prendre, qu'on veut remplacer tous ceux qui sont à l'heure actuelle, parce qu'il y a des gens qui sont compétents. Mais ce qu'on a, tu sais, en 84, on avait un capitaine qui s'appelait Michel Platini. C'était notre leader avec Michel Hidalgo. En 98, il y avait Zinedine Zidane dans cette fameuse génération, avec un homme comme Aimé Jacquet. Et puis derrière, il y avait des hommes qui couraient, qui travaillaient, qui ont fait gagner le football, qui ont donné une autre dimension. 84, la génération Platini. 98, la génération de Zidane, championne du monde et championne d'Europe. Et moi, Luis Fernandez, je regarde et je me dis, mais on va pas rester les bras croisés comme ça. Bon, il faut quand même se réveiller, messieurs. J'ai parlé, puis j'ai dit, avec ces présidents qui m'interpellent, qui à chaque fois, quand ils ont l'occasion de s'exprimer, hein, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord sur la situation du football. J'ai dit non, là, ça manque de solidarité. Alors moi, j'ai pris les devants, comme ça, et on a discuté. Voilà, on est arrivé à ce stade-là, mon cher Denis.
Philippe Sansfourche, cher TL.
Alors, bonsoir, Luis.
Salut, Philippe.
J'ai bien lu cette longue interview, notamment chez nos amis de l'équipe. Et il y a deux constats que je pense que tous les amateurs, les amoureux de football font aussi. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous déploré cette cacophonie ambiante qui a conduit aujourd'hui à un résultat où en fait, on est le seul championnat qui n'a pas repris, alors que tout le monde a crié là où ça ne criait pas. Et pendant ce temps-là, ça travaillait alors que nous, ça criait. Ça, ce constat, on le fait. Après, il y a un constat qui est un peu plus sur la durée, que les grands représentants que vous êtes, les grands joueurs, que ce soit au niveau de la sélection, les grands joueurs qui ont marqué la sélection, ou dans les clubs, dans les grandes figures de Marseille, du PSG, de tous les grands clubs, on voit pas assez d'anciens qui représentent l'institution. Ouais. Tout ça, ces constats, on les fait. Maintenant, ce que je voudrais savoir, Luis, c'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez renverser le système ? Est-ce que vous voulez prendre les rênes de la fédération ? Parce que je trouve que vous le faites à un moment où, honnêtement, si on fait le bilan, sans être un pro-Legrette, hein, mais si on fait le bilan sur 10 ans de ce qui s'est passé, l'équipe de France est championne du monde, ce qui s'était passé à Nice-Na sur le plan moral, ça a été complètement effacé, les finances ont été remises à niveau, on a la Ligue 1 qui n'a jamais coûté aussi cher, enfin je veux dire, le bilan il est inattaquable.
Mais dis-moi Philippe, tu te déplaces? Moi j'ai pas encore eu l'occasion de me déplacer, moi j'ai eu des retours, des gens, des présidents du district d'en bas, moi c'est football amateur, on en vient tous du football amateur, t'es en train de me parler des professionnels, t'es en train de me parler des champions du monde, nous aussi on l'a été champion d'Europe, champion du monde ils l'ont été aussi, mais c'est pas ça qu'il faut y aller, il faut y aller dans son ensemble, pour moi le football c'est celui que je considère, c'est de voir tous ces dirigeants, et je regarde un peu ce qui se passe à côté. Je sais pas, tu voyages un peu, j'espère que tu vas en Allemagne, j'espère que tu vas en Espagne.
Pas assez en ce moment, mais oui.
Non, j'espère que tu as eu l'occasion de voyager dans ces pays-là, l'Angleterre, et de regarder un peu leur institution, de visiter un peu leurs installations. Pourquoi la France, un pays avec 40 clubs professionnels, tu n'as pas d'actifs, ils ne leur appartiennent pas, à part l'Olympique Lyonnais ou à part Auxerre, tu trouves ça logique, toi, tu trouves ça normal?
Non, Louis, mais est-ce que c'est la fédération qui peut changer ça?
Eh bien, pourquoi ne pourrait pas la changer? Pourquoi ne pourrait pas aller au-devant? Pourquoi ne pourrait pas aller voir les footballs dans les localités, dans le football d'en bas, celui d'un football amateur, pour aider ces petits clubs, ces clubs pour essayer de les mettre dans les meilleures dispositions, qu'il y a un peu plus d'espace? Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est la jeunesse, c'est cette jeunesse qu'on doit aussi essayer de faire attention à elle, d'essayer de s'en occuper de la formation. On s'en occupe pas suffisamment. J'ai fait 10 mois au Paris Saint-Germain, je pourrais éventuellement dire plus. Mais tu me dis, tu es en train de me sortir les chiffres de la fédération. Non, mais je te parle pas de la fédération. Moi, j'ai regardé la Ligue aussi, la Ligue de professionnels, la tutelle. La Ligue est sous la tutelle de la fédération, n'est-ce pas, non, Philippe?
Tout à fait.
Non? Ok. Et où est-ce qu'il était, le patron du football français? C'est monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Legrette, non? C'était à lui de sortir. À lui de dire, messieurs, arrêtez, stop.
Mais Louis, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas un grand chef là-dedans, justement, lui, il est arrivé, il a décidé à la place des autres, limite de façon tyrannique.
Ah oui, il a décidé que la Coupe de France doit se jouer, que la Coupe de la Ligue doit se jouer. Non, mais attendez, messieurs,
Non, mais il a surtout décidé de l'arrêt du championnat.
Je te permets, d'abord, tu penses à ceux qui nous ont quittés, tu sais, tous ces 20 000, 25 000 morts qui sont partis. D'accord? Une pensée pour ces gens-là. Parce qu'il y avait certainement beaucoup de supporters dans ces gens qui sont décédés aujourd'hui. Et avec tranquillité, on aurait pu se dire, on va attendre 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, messieurs, ne dites rien. Taisez-vous, calmez-vous, rentrez chez vous, rentrez dans vos clubs, essayez de préparer déjà par rapport aux tests sanitaires, par rapport à. Pour qu'on puisse essayer une reprise.
Louis, c'est là, est-ce que tu n'es pas en train de mélanger un petit peu tout, là, sous le coup de l'émotion? Parce que,
justement, Noël Legrette, en sifflant la fin 2 jours après le gouvernement, a dit à tout le monde, on se tait, le sanitaire, c'est le plus important. Alors après, on peut rediscuter de la phase de reprise. Moi, je suis d'accord, on s'est précipité. Mais justement, lui, il a dit, en ce moment, on ne parle pas de foot, je m'en fous des intérêts personnels, on arrête tout, point barre.
Ah, parce que t'as dû passer la soirée avec lui, parce que moi j'ai pas vu ça dans les médias, j'ai pas vu quelqu'un qui a pris les devants, qui a pris les pour essayer de calmer tous ces présidents, qui étaient un peu chacun par rapport à leur défendre leurs intérêts, que je comprends, hein, chaque président défend ses intérêts, mais on aurait pu les défendre autrement, on aurait pu le faire différemment, parce que on peut éventuellement se retrouver enfermé à discuter, mais ça a été tout le contraire. On passe une ligue Ligue 2 à 22 clubs. Tout ça crée un certain désordre. Je sais pas si vous le ressentez comme ça. Moi je le vois comme ça. J'attends. Je te dis pas que je suis en train de te dire que ces gens, c'est des gens qui sont compétents, qui ont des qualités, qui savent gérer. Tu me prends l'exemple de la Fédération française de football. Je n'ai rien, je n'ai pas attaqué la fédération, moi. Je n'ai pas dit du président Legrette. Je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est. Moi, c'est redonner, repartir, parce que le football aujourd'hui va redevoir se reconstruire, non? Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. Alors, il se reconstruit comment, Louis?
Là, il y a beaucoup comme tu viens on vient de le ressentir, ce qui est normal, de l'émotion, des critiques, etc. Et puis, mais c'est quoi la proposition pour que ça aille mieux?
Ma proposition, c'est que moi, je veux que les anciens, ceux de 84-98, reprennent, rentrent aussi dans les instances, puissent participer à la vie du football amateur, à la vie du football professionnel, qu'ils puissent aussi, comme à côté, au Bayern, tu l'as vu, en Allemagne, en Espagne, ces anciens, on tient compte de leur passé, on tient compte de ce qu'ils ont fait dans le football. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience. On ne demande pas à s'occuper des finances ou de l'administratif, ce n'est pas de notre ressort, mais de la politique sportive. Vous trouvez-vous, là, vous êtes en train de me parler de la fédération, vous trouvez normal qu'à Clairefontaine, dans cette politique du football, qu'il n'y ait pas des anciens qui soient là-bas, à part Diomède? Est-ce que vous en connaissez d'autres?
Mais bon, il faut postuler.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient voulu être à la place
de
Diomède?
Ah oui, d'accord, il faut postuler, messieurs. Ah oui, d'accord, il faut bien taper à la porte. Pourquoi il y en a certains qui n'ont peut-être pas tapé, il n'y en a peut-être pas quelques-uns. Mais je ne sais pas, vous êtes en train de me dire à moi qu'il faut postuler. Mais on a postulé, vous croyez qu'on n'a pas demandé, vous ne croyez pas que les anciens. Et on ne sait pas qui sont ces anciens. Des champions du monde, on ne sait pas. Des champions d'Europe, on ne sait pas. On ne les connaît pas. C'est-à-dire que ces messieurs, il faut qu'ils deviennent. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, en tant qu'ancien, je suis venu à la fédération. Quelqu'un, au lieu de descendre et de venir me chercher, on m'a demandé ma pièce d'identité à l'entrée. Oh, ça en Espagne, ça ne se passe pas comme ça, ni en Italie non plus. Mmh. On connaît les anciens.
Bah après Louis, c'est un problème plus global de culture.
Ouais, c'est un problème. Eh ben voilà, ben dites-moi ça, peut-être changer, peut-être remettre des anciens dans des clubs, peut mettre des anciens comme Albert Gebrich, qui est président de la Ligue de Barin, là-bas, du côté dans l'Alsace, peut-être de travailler aussi.
Mais il est aux côtés de Noël Le Graët.
Non, mais je ne parle pas, je n'ai pas dit, parce qu'il est à côté de Noël Le Graët, d'accord. Mais attendez, je ne fais pas une fixation sur Noël Le Graët, messieurs. Hein. Vous êtes en train de me parler de Noël Le Graët. Je ne suis pas en train de m'attaquer à Noël Le Graët. Je suis en train de le dire.
Non, mais l'organisation de la Fédé, c'est lui. Forcément.
C'est quoi? C'est que de la politique, c'est quoi? C'est des amis, des copains, et ceux qui ont fait du football, ils n'ont pas le droit aussi d'intégrer, de rentrer, de participer. Non, ils n'ont pas le droit à ce genre de situation. C'est que ça que vous préférez.
Louis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des exemples. On parlait, d'ailleurs, c'est peut-être à lui qu'on faisait référence tout à l'heure, je ne sais pas. Ouais. Mais Lilian Thuram, il a été pendant 2 ans, il a été au Conseil fédéral.
Mais
c'est lui qui a démissionné au bout de 2 ans.
Mais oui,
on l'a pas chassé.
Parce qu'on doit les intégrer de plus en plus, on doit peut-être les mettre, on doit peut-être aller les chercher, on doit peut-être aller leur demander. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens, vous savez très bien, messieurs, vous savez comment le football, en France, les présidents, ce sont eux qui font, qui sont en avant, dans la communication. C'est, moi, je ne sais pas, moi, pendant cette période en Espagne, là, Florentino, ou le président du Barça, ou le président de l'Atlético de Madrid, je ne les ai pas entendus. Ils ne se sont pas exprimés, ils sont restés dans leur club, ils ont été voir peut-être les joueurs un jour ou deux, comme ça, au centre d'entraînement, mais ils ne se sont pas exprimés. Nous, ici, on s'exprime, ici, on parle. Les présidents, ils ont besoin d'avoir, dans la communication, d'être au-devant. C'est comme lorsqu'il y a, dans des clubs, c'est que des clubs anciens, je parlais de l'Olympique de Marseille ou de Saint-Etienne ou de Nantes, c'est ces clubs où il y a eu des anciens qui pourraient éventuellement aussi participer, les intégrer, ou peut-être dans la région. Je ne demande pas dans le club, peut-être dans la région de Nantes, la région de Saint-Etienne, pour apporter l'image de Saint-Etienne, de Nantes, de Paris, de Marseille, tout ça, ça peut se faire ou pas, messieurs? Est-ce qu'on peut éventuellement avoir une petite opportunité de rentrer un peu sur un terrain comme ça? Je vous pose la question à vous, messieurs.
Oui, certainement, Louis. Hein, évidemment, on va en débattre dans quelques secondes parce qu'on doit faire une petite coupure pour la pub. On se retrouve jusqu'à 20h pour On refait le match avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, Dominique Servac du Parisien aujourd'hui en France et David Ayel. Nous sommes avec Louis Fernandez jusqu'à 19h. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, c'est David Aiello et puis Louis Fernandez comme invité. Louis, c'est un petit peu votre ta revendication, c'est un petit peu le foot au footeux. C'est, on veut revenir aux bases.
Ma revendication, c'est que l'on puisse faire un peu de place à ces anciens qui pourraient éventuellement apporter une certaine expérience, l'expérience du terrain, de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller à la rencontre de. Dans le football amateur aussi, c'est hyper important parce que pour moi, le football amateur, c'est primordial. Nous, on en vient du football amateur et j'ai entendu certains de ces dirigeants dans le football amateur. Ça remonte pas suffisamment vers le haut. Peut-être que ça reste en bas. Il y a des choses peut-être à formuler. Il y a peut-être des revendications. Il faut aller à la rencontre. Il faut aller les écouter parce que après cette crise, ces clubs-là aussi vont être impactés par rapport à des budgets sur le plan financier. Et je pense qu'on peut aussi apporter. On peut avoir une certaine participation, aller à discuter avec eux et échanger avec eux.
Éric Silvestre.
Louis, c'est l'intention est louable, évidemment, que les anciens se mettent les mains dans le cambouis pour aider le foot français. Parmi tous ceux avec qui vous avez échangé, on a vu les noms, Amoros, Bellone, Bossis, Domer, Gires, Tigana, Bogossian, Desailly. Bref, qui pourrait faire quoi? Qui a envie de s'investir dans quoi? Parce que vouloir participer et faire utiliser son statut d'ancien, c'est bien, mais concrètement, est-ce qu'ils vont aller dans les districts, dans les clubs, dans les ligues? Ils vont faire quoi?
Partout. On peut être de partout. Tu sais, quand on a un nom, on peut rentrer de partout, on peut discuter avec tout le monde, on peut être bien reçu. On peut être accepté, on peut être, quand on discute le football avec tous ces gens-là, t'inquiète pas, ils vont pas te fermer la porte comme ils ont eu l'occasion de lui fermer la porte à Bruno Bellone. Je sais pas si t'as été au courant, tu sais, il est monté pour faire une proposition sur un projet pour le football amateur. On lui a dit non, alors, nous, quand on ira sur le terrain voir ces clubs-là, ces clubs amateurs, quel que soit dans la région, t'inquiète pas, ils vont pas nous fermer la porte, hein. Ils vont nous l'ouvrir, hein. Ils vont nous accepter. Ils vont avoir envie de discuter, échanger, et nous montrer leurs installations, nous montrer un peu leur politique, leur site de travail. Et puis après, on pourra éventuellement essayer de faire remonter et d'apporter quelque chose, un renouveau. Parce que pourquoi le football amateur, est-ce que tu as l'occasion de te déplacer, de voir un peu, d'aller sur les terrains?
Ben malheureusement pas assez, mais je me demande aussi si les anciens ont eu l'occasion de le faire, et j'espère qu'ils le feront, je trouve ça très bien.
Tu sais, j'ai eu des retours de certains qui le font. Regarde, tu sais, on a un ballon d'or aujourd'hui qui s'appelle Jean-Pierre Dampin, non? Mm-hmm. Non? Il va entraîner Chartres. Tu crois qu'il mériterait pas mieux que Chartres, quand même?
Il a eu des occasions.
Tu crois qu'il aurait pu avoir une opportunité, je sais pas, à Clairefontaine, je sais pas, avoir Jean-Pierre Papin.
Bien sûr. Mais après, les grands joueurs font pas forcément de grands entraîneurs. Hein. Claude Makélélé a été un immense joueur. En entraîneur, ça a été plus difficile aussi.
C'est peut-être difficile selon les situations, selon, tu sais, être entraîneur en France, c'est pas facile. C'est très compliqué. J'ai travaillé en Espagne trois fois, tu sais, à Bilbao, à l'Espagnol et au Betis. Et je peux te dire que c'était certainement beaucoup mieux, tu vois, où t'avais cette possibilité de pouvoir t'exprimer, de pouvoir travailler, d'être dans les bonnes conditions pour réussir. En France, c'est assez compliqué parce que tu sais, et vous le savez, de plus en plus, les dirigeants, ces présidents qui se mêlent, qui veulent tout savoir, et ça pose problème, toi.
Ouais, c'est un des problèmes du football français, ouais. Louis. Chacun n'est pas à sa place, chacun ne reste pas à sa place.
Chacun devrait rester à sa place. Un président, c'est quelqu'un qui est président, il a quand même des responsabilités, de grosses responsabilités dans une entreprise. On le voit, tu sais, c'est un club aujourd'hui. On voit que notre football sert plus à former et à vendre. On vend des. Oui. Et on pense pas suffisamment aux supporters, mais vous pensez pas aux supporters aussi. Eux, ces supporters de 20 ans, 30 ans, ils sont de plus en plus en colère. Je sais pas si vous le remarquez. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ça aussi. Parce que fait la fédération, que fait la ligue? Je sais pas, on fait pas grand chose. Mais les supporters sont en colère parce qu'ils perdent cette identité dans leur club, ces joueurs qui s'en vont, qui sont vendus, et les supporters leur demandent à chaque fois de venir, de remplir le stade, de mettre de l'ambiance, d'acheter les maillots. Et il faut, moi, les supporters, je les intègre aussi dans cette discussion, parce que les supporters, il faut qu'ils participent, il faut qu'eux aussi donnent leur avis. Et après, tu verras que ça va peut-être un peu plus se calmer. Je ne te dis pas qu'on y arrivera, mais ça peut se calmer un peu aussi, tu vois.
Philippe Sanfour, cher TL.
Louis, on a bien compris qu'un des grands axes du projet, c'est effectivement d'entendre plus les amateurs, toutes les familles, ouais, en fait, du foot, les anciens joueurs, les supporters, d'accord, très bien ça. On a compris. Moi, ce que j'attends aussi, quand je vois tous les noms brillants, ces anciens joueurs qui sont agglomérés autour de Luis Fernandez, c'est, je trouve que pour l'instant, on parle beaucoup des institutions, on parle beaucoup de politique interne au foot, et le jeu dans tout ça, parce que là, moi, je suis d'accord pour dire que aujourd'hui, la Ligue 1, elle a jamais été aussi chère, aussi magnifiée. Ouais. Alors certes, on a un ou deux grands joueurs. Il y a effectivement l'arbre Paris Saint-Germain.
Oui, le niveau de la Ligue 1, Louis,
mais
c'est quand même appauvri.
Le niveau de jeu, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des joueurs qui partent, est-ce que dans la philosophie, est-ce que les entraîneurs, est-ce qu'à la DTN, est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond à faire? Et là, il y a vraiment un champ large.
Tu parles de la DTN. Eh ben, on aimerait bien rentrer dans la DTN. On aimerait aussi participer après dans
les. Alors,
dans
si les vous clubs, y rentrez, quel est le projet? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place pour que ça joue mieux au foot en France?
Déjà, tu sais, avec les jeunes, déjà de bien s'en occuper, de bien en prendre soin et d'essayer d'établir des règles. Tu sais, des règlements qui font que dans chaque club, la formation, de la traiter de la même façon dans tous les clubs, qu'il n'y ait pas de différence. Et ça, pour moi, c'est primordial. Parce que la formation, quand tu commences à faire des différences, trop de tu sais, les contrats des uns et des autres qui ne sont pas suffisamment, ou que, tu sais, il y a trop de différences, ça se crée un problème. Alors ça, déjà, il faut établir. Après, le travail, c'est les jeunes, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour jouer. C'est vrai que vous êtes en train de vous préoccuper du niveau de jeu. Moi, je m'occupe pas du niveau de jeu de la Ligue 1. Moi, ce que je regarde, c'est un peu ce qui peut se faire dans une DTN, ce qu'on peut éventuellement un projet sportif de formation avec les éducateurs, avec les formateurs, pour essayer de faire des évaluations, d'essayer de travailler. C'est un travail, ça.
Oui, mais après, tout est lié, Louis, que ce soit la.
Non, mais tout est lié. Mais on ne peut pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire, Luis Fernandez, on devrait travailler différemment. Non, parce que je pense qu'il y a peut-être. On n'est pas suffisamment bien informé de comment ça travaille. Hein. C'est, moi, je ne suis pas rentré à l'intérieur pour te dire, tiens, je ferai comme ça, je ferai différemment. Non, je laisse les gens qui sont aujourd'hui. Et si demain, si dans 6 mois, on peut établir, on peut rentrer, apporter notre expérience, on sera les hommes les plus heureux parce qu'on a, on en a envie. C'est tout.
Bon, Luis, on a bien compris que ce ne serait pas Luis Fernandez, le nom, la tête de liste, pour être éventuellement à la tête d'une la Fédé ou d'autre chose.
Le porte-parole.
Qui ça peut être ?
À qui ça peut être ? Et, si vous aimeriez, lequel vous aimeriez voir à la tête, vous, messieurs ?
C'est pas nous qui choisissons. C'est pas nous qui choisissons.
Vous pourriez voir selon. C'est quoi ? Sur les anciens, du Giresse, ce serait. Gigi, pourquoi pas, je sais pas, il faut lui poser la question, hein.
Mais il entraîne en Afrique.
Manuel était aussi dans une ancienne élection, je crois. Il était avec participé, non, avec dans la dernière élection à la fédération, hein, je crois.
Ouais,
je
sais
pas.
Ouais.
Après, tu sais ce qu'il faut.
Forcément, un ancien joueur.
Regarde, tu sais qui est président dans la fédération, je prends toujours l'exemple de la fédération espagnole de football. C'est Rubiales. C'est un ancien joueur. Il est président de la fédération espagnole et Tebas s'occupe de la Ligue. Mais pour revenir à...
Mais en Espagne, la Ligue est quand même beaucoup plus puissante que la Fédé. Hein.
Oui, mais oui, tu sais pourquoi ? Parce que c'est quand même, c'est là où il y a les enjeux économiques. Et c'est pour ça que ça aussi, ce serait que le football de la Ligue soit puissante, forte, et elle pourrait ensuite redistribuer au football amateur.
Luis, on est ensemble encore pendant quelques secondes. Est-ce que tu peux rester avec nous 5 minutes après les infos ?
Vas-y, va.
Allez, c'est on gentil. Merci beaucoup, Luis Fernandez. On retrouve juste après les infos avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, puis David Aiello et Dominique Sévra du Parisien aujourd'hui en France. A tout de suite, vous êtes sur RTL.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL. Ah.
RTL à la seconde près, il est 19h. L'information Aude Vernuccio.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd a traversé les frontières américaines. Des milliers de manifestants ont bravé l'interdiction en France pour dénoncer le racisme et les violences policières. Rassemblement à Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille ou encore Paris sous le slogan Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Au moins 1 millier de personnes place de la Concorde près de l'ambassade des États-Unis. La préfecture de police a pourtant interdit ces manifestations en raison de l'état d'urgence sanitaire, dont une sur l'esplanade du Champ de Mars. I can't breathe, je ne peux plus respirer. Ce sont les derniers mots de cet Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier à Minneapolis. Ils sont désormais scandés par les manifestants aux États-Unis. Cérémonie d'hommage en cours à Ray Ford, sa ville natale de Caroline du Nord. Marche aussi à New York, Miami et bien au-delà. 20 000 personnes ont défilé à Sydney, en Australie. Autre mobilisation en France, celle des salariés de l'usine Renault de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Salariés, élus, habitants se sont regroupés contre la fermeture annoncée du site. La direction du constructeur automobile prévoit de réaliser 2 milliards d'euros d'économies. 4 600 postes en France devront être supprimés. Il devrait être 1 million d'enfants à en bénéficier. Le ministère de l'Éducation nationale veut envoyer les jeunes en vacances apprenantes, un nouveau concept pour se distraire et étudier en même temps pour des enfants restés confinés dans des conditions difficiles. Parmi eux, 200 000 jeunes des quartiers prioritaires. Le dispositif sera lancé vendredi sur une plateforme en ligne avec un budget de 200 millions d'euros. Un nouveau dispositif pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Elles pourront désormais débloquer par anticipation leur épargne salariale nécessaire lorsqu'elles quittent leur mari violent. La mesure avait été annoncée en novembre dernier par Marlène Schiappa au moment du Grenelle contre les violences conjugales. Le décret vient de paraître au Journal officiel. Marlène Schiappa qui signe la petite phrase politique du jour contre son camp et plus précisément contre la candidate La République En Marche à Paris pour les élections municipales. Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris, aura-t-elle écrit dans un SMS à des militants du parti présidentiel selon nos comptes. confrères du Point. Propos qui n'ont pas été démentis. Et puis un incroyable rebondissement. 19 ans plus tard, il est retrouvé grâce à un mégot de cigarette. Un homme de 40 ans a été mis en examen à Valence pour le meurtre d'une femme. De l'ADN a été retrouvé sur ce mégot découvert à l'époque sur la scène de crime. L'homme aurait partiellement reconnu les faits. La météo de demain, un ciel toujours instable sur une majeure partie du pays, des averses dans la matinée à la fois sur les côtes de la Manche et de la Méditerranée, des pluies qui vont se transformer au fil de la journée en orages sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Côte d'Azur et la Bretagne. Côté température, comptez de 5 à 10 degrés demain matin sur la moitié nord et le massif central, de 13 à 18 sur le sud-est de la France. Et puis l'après-midi, pas plus de 20 degrés au nord, jusqu'à 27 en revanche sur la vallée du Rhône.
Merci beaucoup Aude, très bonne soirée.
À demain.
À demain, on se retrouve avec
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Luis Fernandez qui est notre invité, qui est resté avec nous avec toute sa gentillesse habituelle, évidemment sa flamme. Luis, on avait... on avait parlé de ce foot amateur, c'est vrai, mais on avait évoqué, et tu l'avais évoqué tout à l'heure, le nom de Michel Platini.
Oui. Non, mais le Michel Platini, c'est la génération 84 avec les Giresse, avec les Amoros, les Bellum, tout ça. Comme de l'autre côté, on laisse tranquille un peu ceux qui sont en place, comme Zizou, comme Deschamps, ou comme Vieira, ou comme chercher le quatrième. C'est des garçons qui sont en ce moment. Alors, c'est même Laurent Blanc, on laisse tranquille. Voilà, et puis après, il y en a d'autres aussi dans ces fameuses générations qu'on aura l'occasion encore d'aller discuter, échanger avec 84 ou ceux de 90. Michel Platini, bah pour l'instant, on le laisse tranquille. Michel, il est du côté avec ses... tu sais, là, il y a la Suisse, là, avec ses ennuis. Il faut que ça se termine. Et puis là, il a besoin que ça se termine et que ça se passe bien. Après, on verra. Pour l'instant, j'ai... tu sais, le but de ma démarche, Denis, c'est pas de vous dire, tiens, on décide, on souhaite, on veut. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un groupe avec lequel on a envie d'apporter quelque chose, un renouveau, d'essayer de discuter avec les uns et les autres. Il y aura un candidat qui va se présenter. Bah, si ce candidat a, dans son projet, par rapport au football amateur comme au football professionnel, des idées sur lesquelles on arrive à se rejoindre, eh ben, on sera derrière lui. Hein. Tu sais, on n'est pas en train de te dire, on prendra quelqu'un du football, peut-être que personne du football aura l'envie de s'y présenter. On sait pas, on peut pas. Aujourd'hui, on a discuté pendant, ça fait un mois ou il y a 15 jours qu'on a discuté ensemble, mais pour l'instant, on n'a pas été plus loin. C'est pour ça qu'il faut encore attendre un peu.
Luis, je reviens quand même sur Platini. Peut-être. Évidemment, le timing n'est pas encore au moment où il va pouvoir peut-être revenir vraiment. Mais vous échangez avec lui. Est-ce que vous sentez au moins chez lui cette envie d'aller dans le football français, de venir aider le football français?
Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler de ce genre de situation parce que je le laisse tranquille. Moi, Michel, c'est quelqu'un que je respecte énormément. On a eu l'occasion de se revoir lors... deux mois avant la mort de Michel Hidalgo, c'était du côté de Marseille. J'ai vu Michel avec les autres et voilà, on a discuté, on a échangé. Mais tu sais, Michel, pour l'instant, il est dans son... là où, à l'heure actuelle, il attend avec impatience que cela se termine. Tu sais, il y a Michel, c'est une image. Pour moi, c'est une image positive. C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un, si demain, il me demande si pour qu'il se présente, bah, je serais heureux, tu vois. Je serais heureux d'être derrière lui. Je serais heureux de pouvoir l'aider. C'est comme ça. Mais pour l'instant, on n'a pas décidé. On est encore dans cet échange. On est encore dans les prémices. On est dans ce début où on essaie de se concerter, de parler les uns avec les autres.
Luis, si Noël Le Graët vous appelle et vous dit j'ai entendu le message, j'ai compris, il y a quelque chose à faire et est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est entendable?
Pour l'instant, non, on fait pas cette démarche en essayant de, avec ceux qui sont en place. On fait une démarche en attendant qu'il y ait des élections. Et s'il y a des élections, on a envie de savoir quels sont les projets des uns et des autres. Et en fonction des projets des uns et des autres, ce groupe-là va se déterminer, va se décider et va aussi faire part à ses candidats. Voilà, le projet, ce que l'on souhaite, ce qu'on veut. Parce qu'on va, d'ici, dans les 6 mois à venir, vous inquiétez pas, on va se déplacer. Je vais me déplacer. Je vais aller les voir. Je vais aller voir un peu selon le temps que j'aurai à ma disposition, de pouvoir discuter. Vous savez, il faut aller à la base. Il faut aller avec le football amateur, avec ses bénévoles aussi, on en parle pas assez souvent. Et moi, je suis proche. Et tu sais, comme le football aujourd'hui, dans les quartiers, dans ces clubs aussi, avec ses difficultés, il faut y aller aussi, il faut se déplacer. Et quand ils auront l'occasion de voir, peut-être l'occasion de voir arriver ces anciens qui sont dans les anciens internationaux, hein, qui sont dans ces régions, ils seront contents, ils seront heureux. Alors, on va pas tout gommer, mais on va peut-être essayer d'apporter autre chose.
Dernière question, Eric Silvestre.
Louis, si dans les discours que vous aurez avec les uns et les autres, vous n'entendez pas ce que vous voulez ou vous ne sentez pas la main tendue comme vous le souhaitez, est-ce que vous pourrez vous structurer relativement rapidement pour offrir une alternative, vous et les autres?
On peut toujours se retourner sur ce genre de situation, ça c'est sûr et certain, mais je pense qu'on arrivera, tu sais, on est des gens simples, très simples. Tu le vois au travers des carrières des uns et des autres, tu sais, on a chacun essayé de grandir, de prendre place dans le monde du football. On n'a pas trop de place, on a une petite place. Moi, c'était un peu dans les médias, d'autres dans des clubs. Mais après, on aura l'occasion de discuter. C'est des échanges, ça. Tu sais, quand on commence à parler avec les personnes qui vont se présenter, il y aura certainement, on aura des personnes avec lesquelles on arrivera à s'entendre, hein, quand même. Hein.
Merci beaucoup, Luis Fernandez, d'avoir été avec nous ce soir dans Fait le Match. Merci, Luis.
Merci.
Merci et meilleure santé. Bonne santé à Luis Fernandez, à ta famille. À très bientôt. On t'embrasse. 19h08 sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, Dominique Sévrac d'aujourd'hui, Le Parisien en France. Bonsoir, Dominique.
Bonsoir.
Et David Aiello qui est là aussi.
Bonsoir à tous.
À tout de suite, messieurs, sur RTL.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Sur bouygues-telecom.fr.
RTL, on refait le match. Avec Denis Balbir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL, David Aiello et Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, que nous saluons encore une fois. Et une réaction justement sur tous les propos et de Luis Fernandez ce soir sur RTL.
Moi je suis un peu je suis partial puisque j'adore Luis. Donc j'adore cette démarche-là. Souvent on dit il faut rendre au football ce que le football nous a apporté. Bah, ils sont complètement dans cette démarche-là généreuse de rendre au football une part de cette connaissance. Moi je trouve que dans la liste il y a des gens intéressants qu'on n'entend pas souvent, qui nous embêtent pas du soir et matin. Par exemple, Alain Giresse, c'est pas quelqu'un qui vous harcèle du soir au matin pour vous donner son avis.
Pas trop
et quand vous
style.
Écoutez Alain Giresse, bah, c'est passionnant. Aujourd'hui avec l'actionnaire qui est à Bordeaux, Alain Giresse, c'est compliqué pour qu'il revienne à Bordeaux. C'est ça qui choque ces joueurs-là.
Ouais.
Gentilgala, on l'entend pas souvent. Gentilgala, il est dans la liste. Et vous savez que Gentilgala, il est président du collectif des anciens internationaux. À la fédération, Florence Ardoin, elle a pas tellement aimé ce collectif. Elle l'invite pas souvent. C'est ça qui choque un peu ces gens-là. Ils se disent, mais nous, on est quand même les premiers, un peu les pionniers dans le football français. Bon, il y a eu 58. Mais après, la deuxième vague, la deuxième génération, c'est la génération 84. Ils ont apporté avec Platini quelque chose d'incroyable au football français. Avant 98, avant 2018. Et je trouve que ces gens-là, on les laisse un peu de côté. Alors qu'ils ont forcément des choses à dire. Tout n'est pas génial, tout n'est pas intéressant, mais on ne les écoute pas beaucoup.
David
Aiello. Surtout dans un contexte, moi ce que je voulais dire en préambule, c'est que je trouve que ce discours, en tout cas de Luis Fernandez, il est louable, ne serait-ce que parce qu'il va permettre d'avoir un débat. Vous vous souvenez qu'en 2017, il y a eu la précédente élection présidentielle, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un débat, qu'il y a eu des idées échangées dans les candidatures? On rappelle que Noël Le Graët a été élu dès le premier tour, avec plus de 57% des voix dès le premier tour. Et on a l'impression que, et c'est d'ailleurs souvent l'image du monde fédéral, pas seulement dans le foot, mais dans l'ensemble du sport français, que c'est confisqué un petit peu comme ça, qu'il y a des ronds de serviettes qui sont attribués, puis voilà, une fois qu'on a le pouvoir, on le garde, et puis alors, pour ce qui est de l'avancée des débats, faire bouger les choses, ça bouge pas. Alors, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, le bilan de Noël Le Graët, il est excellent, c'est pas la question, mais moi, le fait que Luis Fernandez vienne comme ça avec, effectivement, d'anciens internationaux qui connaissent le football, je trouve ça louable et salutaire.
Oui, secouer le cocotier un peu et l'opinion publique, c'est bien, parce qu'en effet, ça amène un peu de vie, un peu de débat, comme dit David, un peu d'émulation. Après, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Alors tout est louable dans l'intention.
Ça c'est Luis aussi, c'est un peu dans son caractère.
Oui, bien sûr, mais après il y a aussi beaucoup d'anciens qui sont cachés, il y en a aussi qui ont préféré les plateaux télé à l'investissement tous les jours au quotidien dans le foot amateur.
Mais
on peut pas leur en vouloir. Enfin, je veux dire, ils ont aussi marché sur 98, ils ont profité aussi des demandes qu'ils avaient. Mais bon, c'est pas pareil que d'aller au quotidien dans le foot amateur, dans les districts,
dans les
ligues.
Ils vont se rendre compte, ils
profitent de la crise, il s'est passé quelque chose quand même.
Le football français depuis 3 mois nous donne un spectacle de lui-même qui est affolant. important quand même.
Tout à fait.
Entre la fédération, la ligue, les présidents, les syndicats, les groupes de travail, c'est franchement inaudible, c'est insupportable. Comme a dit Louis à un moment donné, je pense que c'était une punchline incroyable. Il a dit, il y a eu 25 000 morts, dont certains supporters. Nous, on avait un président de fédération qui nous disait, il faut jouer à la finale de la Coupe de France. Ben, ça, c'est des faits, là, dans ce qu'il dit.
Il l'a dit après.
Nous, on l'a eu pendant une demi-heure ici. Ouais. L'histoire de la finale de la Coupe de France, c'est vrai qu'il l'a dit. Et que quand on décrypte, on sait que, bah, il y a aussi des intérêts financiers, il y a des droits télé. Ok, transparence. Mais je pense, on va pas reprendre la bande, mais sur 30 minutes d'émission, je pense que ça vient après 20 minutes, cette affaire. C'est-à-dire qu'au début, c'est d'abord l'intérêt sanitaire, l'intérêt du foot, l'intérêt des amateurs, d'essayer de boucler les compétitions.
Il n'y a pas de souci. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts particuliers dans le football français depuis 3 mois et depuis des années. Et que son slogan de la jouer collectif, ça ne peut pas faire de mal.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est quand même corporatiste parce que c'est. On la joue collectif, mais en gros, le projet, à part partager le gâteau avec les anciens joueurs, c'est quoi? C'est ça qu'il nous dit.
Le projet, c'est d'amener dans les instances.
En fait, on n'est pas dans le gâteau, quoi. On veut notre part du gâteau.
C'est d'amener dans les instances. J'ai beaucoup de respect pour Nathalie Bois de la Tour, Didier Quillot, Noël Le Graët, Florence Ardouin. C'est d'amener dans les instances un œil de sportifs d'anciens joueurs de foot.
De haut niveau.
Donc, cet œil-là, il n'existe pas.
Baptiste Durieux, sur les réseaux sociaux également, on aura un auditeur, Christophe, supporter du PSG, dans quelques instants. Baptiste Durieux.
Oui, l'interview de Luis Fernandez qui suscite beaucoup, beaucoup de réactions. Le message d'Eric notamment. Si enfin les vrais footballeurs, les vrais hommes pouvaient prendre le pouvoir, ne rêvons pas trop vite quand même. Les autres vont se défendre becs et ongles afin de garder leurs privilèges d'un autre temps. Allez, Luis. C'est le message d'Eric et puis le message de Julien. Les mecs de 84 et 98, ils ont quand même eu le temps de se former et d'entrer dans les instances, non? Il y a peut-être une raison pour laquelle ils n'y sont pas. Être joueur de foot, même une légende du foot français, être un dirigeant, deux métiers différents.
Moi, ce qui me gêne un peu dans cette approche, c'est qu'on a toujours l'impression que les joueurs sont les gentils et que les dirigeants sont les méchants. Et il y a un côté, voilà, on a été joueurs. Alors, c'est vrai, il faudrait pouvoir mélanger les uns, les autres.
Comment t'expliques que dans d'autres pays, ça marche?
Oui, mais je veux dire, à un moment, combien ont voulu. Il a cité Bernard Diomède, par exemple, Luis Fernandez, qui va entraîner à Clairefontaine, les jeunes. Mais Bernard Diomède, il est quasiment jamais dans la lumière. Et pourtant, il est allé faire ce travail de l'ombre. Combien de joueurs de 98 ou même de 84 accepteraient de faire ce que fait Bernard Diomède? Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
David Aiello.
Non, c'est un vrai problème. Je voulais rebondir sur ce que disait Dominique à l'instant sur effectivement l'omniprésence comme ça d'une espèce de. On a une hiérarchie dans le football français avec des dirigeants qui, pour la plupart, quasiment l'intégralité, ne viennent pas du monde des joueurs. Et je trouve que finalement, dans ce que vient dire Luis, il y a quelque chose qui est dans l'air du temps. On a vu ces derniers temps en politique Bigard dire moi je suis le peuple et le peuple il a des choses à dire. J'ai l'impression que ce que nous dit Luis, c'est un petit peu la même chose.
Ça m'inquiète alors. Hein.
Non mais l'analogie.
J'espère que ça ne sera pas la même chose.
Je te dis pas que Luis c'est le seul Bigard du foot. Je te dis juste que Luis vient quand même avec ça. Cette même idée de dire le peuple aujourd'hui, le peuple du foot en l'occurrence, et les joueurs n'est pas entendu parce que, et il l'a dit également indirectement en parlant de des finances du football, en disant attention, le football il est plus au peuple.
C'est étonnant dans votre analyse, Eric, qui est peut-être filé dans une moindre mesure, quand vous voyez Seferin arriver, Gianni Infantino, Didier Quillot qui a dirigé Orange, des boîtes comme ça, ça vous paraît normal. Mais que Michel Platini, qui a été contre la VAR, qui a eu des idées sur le fair play financier, des idées intéressantes, le football appartient aux footballeurs. Je suis désolé, moi, la VAR, j'étais pour qu'on utilise la vidéo depuis qu'on l'utilise. C'est un naufrage, donc j'ai changé d'avis, je veux plus qu'on l'utilise. Bravo. Et ben, Michel Platini avait raison. Quand on a l'œil du football, c'est quand même beaucoup plus intéressant que moi. Vous connaissez quoi la vision de Gianni Infantino du football? C'est quoi sa vision? C'est le patron du football mondial, Gianni Infantino. C'est quoi sa vision du football? Blatter, c'était quoi sa vision du football?
Non mais attends, non mais moi je suis comme Eric toi, Silvestro, j'ai rien contre RTL. Le fait que les anciens ou les joueurs soient mêlés à l'histoire du foot, je dis simplement juste que tu peux pas arriver avec l'auréole parce que t'as été ancien joueur, c'est merveilleux, c'est tous les autres, c'est les méchants.
Allez, on va être obligé de s'acquitter pendant quelques instants, on se retrouve dans quelques minutes justement après la pub sur RTL jusqu'à 20h avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, David Aiello et Dominique Sévrac du Parisien, aujourd'hui en France, à tout de suite.
RTL, on refait le match. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, David Aiello, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL et Christophe, supporter du PSG, qui a été attentif auditeur. Salut, de Christophe. Tout ce qu'a dit Luis Fernandez. Christophe, bonsoir.
Bonsoir. Déjà, je vais vous donner mon âge. 50 ans. Donc, en fait, j'ai connu 78 à maintenant. Pour moi, il y a un homme qui pourrait prendre la Ligue. Parce que Ardouin, entre nous, c'est qui? ancienne conseillère, conseil directive de l'OL. Mais sur le foot, elle connaît quoi ? Que dalle.
Mais elle n'est pas là, de... Florence Ardouin, la fédération.
Fédération, pardon. On peut parler aussi de Marassignano, ministre des Sports, qui dit il y a 24 heures, le problème du football n'intéresse pas les Français. Madame Marassignano, le football, c'est la plus grosse industrie française du sport. On la respecte, on l'écoute, et quand on ne connaît rien, on se tait. Et elle ne connaît rien, elle nous a déjà gonflé en début de saison l'année dernière, et là, elle nous fatigue l'esprit, et je ne comprends même pas comment le football français ne monte pas au créneau contre cette ministre, qui est une parfaite incapable.
Bon. Ça n'engage donc, que vous. Donc qui a la Ligue à la Fédé ?
Allez-y, fait. Christophe, s'il vous plaît.
Alors maintenant, Noël Le Graët, franchement, on ne peut rien lui dire. Le gars, il tient la fédération d'une main de maître. Il faut reconnaître qu'il a fait un travail exceptionnel et qu'on ne peut pas tout critiquer, ce n'est pas possible. Si on est objectif, moi j'adore Louis, hein. Il porte mes couleurs, enfin je veux dire, c'est un gars que j'adore, voilà. Il part un peu dans tous les sens, mais voilà, mais c'est Louis quoi. Aujourd'hui, il y a un homme qui pourrait prendre la Ligue, c'est Youri Djorkaeff, le mec posé.
Donc la FFF, hein, la Fédération, pas la Ligue.
Non, moi je parle de la Ligue parce que la Fédération ne peut pas tellement aujourd'hui.
D'accord.
Comment tu veux prendre la Fédération à Noël Le Graët, les gars? Oh, le mec, il est champion du monde, il reprend la Fédération après Nasna. Et puis, ben, de toute façon, il ne partira pas, hein, Noël Le Graët.
Donc toi, Christophe, c'est Djorkaeff, Youri Djorkaeff, président de la Ligue.
Pour moi, je trouve que c'est un mec qui en impose, qui est là, qui parle calmement, qui ne s'emballe pas.
Christophe, diriger la Ligue, c'est aller négocier un opérateur à 1 milliard 200 millions de droits télé. C'est un boulot comme ça. Hein.
Attends, discuter
d'arbitrage parce que le Lyon et l'OM sont pas d'accord du match. Ils se sont battus à la fin du match. C'est ça un président de Ligue. Hein.
C'est
Thierry qui a sa voiture caillassée par le football corse ou par... C'est ça un président de Ligue. C'est des fumigènes dans les stades. Et je vois pas l'analogie avec Youri.
Christophe.
Non, mais attends, je vais quand même te dire quelque chose. On va reparler des médias, de Canal+, d'RMC, de Bein, qui gentiment, depuis 3 mois, nous taxent du fric, tous les mois, sans nous donner une prestation qui correspond au football. Hein.
C'est vrai.
Et personne ne dit rien. Il n'y a pas un article dans vos journaux.
Mais s'il y a des attendez, on ne peut pas vous laisser dire ça, Christophe. D'abord, on en a parlé. Secondo, il y a des mouvements collectifs, associatifs, justement, qui se sont montés, dont on a parlé pour revendiquer le remboursement des abonnements. Donc, après, nous, on ne peut pas.
Non, mais c'est quand même incroyable que tu fasses payer à des gens un truc dont eux ont dit à la Ligue, on ne paye pas parce qu'on ne joue pas. Donc, tu t'imagines, les mecs,
il y a des recours, monsieur. Il y a des recours qui sont engagés.
On va y aller au recours.
Ah ben, j'espère bien.
Ah non, on va aller jusqu'au bout, hein. Parce qu'à un moment donné, on peut pas prendre les Français pour des cons. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, la responsabilité du Premier ministre, qui a dit clairement que c'est lui, à la tribune de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'il fallait arrêter la Ligue 1, et qu'ensuite, on vienne reprocher à Noël Le Graët d'avoir dit on arrête le foot, c'est un peu fort de café, les mecs. Hein.
Ben on est d'accord.
On est d'accord.
Non, mais franchement, il faut être un peu objectif. Moi, j'ai 50 balais. Hein. J'ai pas 20 ans et je réfléchis pas avec n'importe quoi dans la tronche. Hein. Je dis simplement les choses à un moment donné. Il y a quelqu'un qui décide d'arrêter la Ligue, d'arrêter le championnat.
Oui.
Tout le monde, à ce moment-là, est d'accord, sauf une personne qui s'appelle évidemment Olas. Mais il faut quand même, et pourtant, moi, je n'aime pas Olas, hein, les gars. Je ne l'aime pas, hein, je peux vous garantir. Mais il faut reconnaître quand même que c'est le seul qui avait raison.
Sur les propositions de Luis Fernandez d'intégrer les anciens, etc., quel est votre avis, Christophe?
Aujourd'hui, tu prends toutes les grandes fédérations de football, toutes, des 5 plus gros championnats mondiaux. Il y a des joueurs et il y a des businessmen. C'est un mélange. Et t'es obligé, parce que, je suis désolé, mais ceux qui connaissent le foot, c'est les footballeurs.
Ouais, la fédération anglaise, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'anciens joueurs.
Mais moi, je n'ai pas la réponse, Christophe. Mais est-ce que Eric en France, les anciens footeux ont absolument voulu intégrer les instances?
Il a pas tort.
Est-ce qu'on les a empêchés?
Flagrant, les enfants.
Voilà. Est-ce que
je suis d'accord avec vous?
Nous sommes les enfants de Philippe Sanfourche.
Effectivement, ça peut pas tomber du ciel. C'est-à-dire d'un seul coup, tu travailles pas en disant bah moi, en fait, je vais être aux instances et puis je vais tout décider. Il y a un mec qui bosse, qui a été quand même pendant 14 ans footballeur professionnel, qui a 5 ou 6 sélections en équipe de France, qui a joué en Allemagne, qui a joué en Angleterre, qui s'appelle Marc Keller. C'est un mec qui a fait des études à côté de sciences économiques. C'est un mec qui est rentré après à Strasbourg et qui a bossé pendant des années et qui finit à la tête du club, qui finit par rentrer aux côtés de Noël Le Graët sur sa liste en 2017, qui travaille de manière quotidienne sur des dossiers qui dépassent le cadre et qui aujourd'hui, à 52 ou 54 ans, est clairement identifié comme le...
Mais on est bien d'accord.
Garçon,
c'est un garçon qui a travaillé. C'est un garçon qui est passé par les circuits.
Il a un gros problème, c'est qu'il n'est pas de 84 ni de 98.
Non, mais il y a Albert Gabriel qui a 5 sélections, qui est membre du comité.
Oui, mais là, ce que vous êtes en train un petit peu de sous-entendre, c'est-à-dire qu'on profite un petit peu, enfin, les personnes citées profiteraient éventuellement de leur nom pour éviter les.
Non, c'est pas ça qu'on dit. Non, c'est pas ça le problème, à mon avis. Ce qu'on dit juste, c'est qu'effectivement, que ces anciens joueurs aient des idées, et Louis a parlé de Jean-Pierre Papin, évidemment que le vécu de Jean-Pierre Papin il est important et que c'est quand même bizarre aujourd'hui de le retrouver là où il est.
Oui, non mais attendez, on va faire une présente parenthèse sur Jean-Pierre Papin que j'adore, mais Jean-Pierre Papin il a eu sa chance depuis quand même pas mal d'années,
mais
notamment au haut niveau. Après, les présidents ont décidé.
Voilà,
après,
exactement, mais je dirais qu'il ait des idées, qu'il a un vécu dans le football, c'est une chose.
Ah, évidemment,
mais à côté de ça. Être dirigeant dans le football français, c'est une autre dimension. Il n'y a pas aujourd'hui, effectivement,
il y a pas 50
de parler de Marc Keller, il y a très peu de joueurs 50. Qui ont eu cette démarche-là.
Il y a Marc Keller, il y a Michel Platini.
Voilà, mais
il faut avoir un sens politique, il faut avoir une vision. Michel Platini, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais il a une vision.
Bien sûr.
Son combat contre la VAR, dont on sait aujourd'hui qu'il avait raison, à mon avis, le fair play financier, il était aussi pour une Coupe d'Europe un peu moins fermée, parce que la Ligue des Champions, certains pays doivent faire plusieurs tours avant d'intégrer la vraie Ligue des Champions, la phase finale. Voilà, alors que lui voulait que dès le départ il y ait des matchs aller-retour dès le début.
Et ça c'est à la fois de la politique et en même temps de la vision.
Allez, on va remercier Christophe, supporter du Paris Saint-Germain, qui a donné son éclairage sur ce qu'il a pensé du discours de Luis Fernandez. On se retrouve dans quelques instants pour parler du mercato franco-français, du Conseil d'État qui va donner son avis sur les requêtes de Toulouse, Amiens et Lyon très certainement lundi, et puis de Cristiano Ronaldo qui est rentré dans la cour des milliardaires. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
Non surtaxé.
On refait le match sur RTL, Denis Balbir.
Merci d'être avec nous jusqu'à 20h avec Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, David Ayello, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL. Lundi ou mardi, le Conseil d'État rendra sa décision quant aux appels conjugués de Toulouse, Amiens et Lyon. À noter que Lyon a rajouté dans cet appel une volonté de faire des play-offs, de recommencer
le retour des play-offs.
Le retour des play-offs qui rentrerait dans le calendrier de l'UEFA. Eric Silvestro d'RTL.
Alors j'ai lu ça tout à l'heure, en effet, les play-offs qui ont été déposés cet après-midi avant la reddition.
C'est toujours les mêmes play-offs que Jean-Michel.
Ok, alors je veux bien m'expliquer. Encore 30 points à prendre, puisqu'il restait 10 journées de championnat.
Ouais.
Donc les play-offs, on joue les play-offs de quoi à quoi? Parce que même Amiens peut être encore en Coupe d'Europe avec 30 points.
On rappelle que Jean-Michel Aulas avait déposé une formule dans laquelle les 15 premiers de Ligue 1 disputaient les play-offs.
Voilà.
Et dans laquelle, avec cette formule, Metz 15e, en gagnant 5 matchs sur 6, pouvait être champion de France.
Non, c'est bon ça.
Le championnat a été arrêté le 28 avril par Edouard Philippe et donc le 30 avril par la Ligue. À l'époque, on pouvait encore imaginer que c'était peut-être trop tôt, tout ça, on pouvait encore imaginer scénario de prise. On est le 6 juin.
Oui, tout à fait.
C'est techniquement, c'est désormais impossible de reprendre la saison. C'est impossible. Les joueurs se sont arrêtés depuis le 13 mars. Il faut désormais 10 à 12 semaines de réathlétisation, alors qu'avant on était à 4. Donc, si vous voulez faire un match de football en reprenant l'entraînement la semaine prochaine, vous ne pourrez pas commencer à jouer au football avant début août. Voilà, ce qui est prévu par exemple pour le Paris Saint-Germain et Lyon en Ligue des Champions. Et les autres équipes, elles, commenceront le 23 août. Sauf si vous voulez début août, finir la saison qui n'a jamais fini et décaler la prochaine saison du 23 août.
Sauf que l'UEFA dit non.
En octobre ou le fantasme de la Ligue 1 qui pourrait reprendre, c'est désormais impossible.
Fred, supporter de Lyon, est avec nous. Bonsoir, Fred.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, le Conseil d'État, à ton avis, qu'est-ce que ça va donner? L'appel au Conseil d'État.
c'est très compliqué parce que il va y avoir beaucoup de lobbying par rapport à ça. Ce que ça va donner, c'est que je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir, ils vont pouvoir entériner la reprise de la Ligue 1 pour les raisons qu'on vient d'entendre, et c'est tout à fait juste. J'intuite qu'il va y avoir une décision un peu hybride, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter le championnat, mais en même temps, ils vont certainement permettre à Toulouse et à Amiens de rester en Ligue 1, parce que d'un point de vue purement sportif, c'est vrai que on peut comprendre leur décision, mais ça va être une décision sur tapis vert. Mais de repartir sur les terrains, malheureusement.
Enfin, ceci dit, juste un petit point réglementaire sur ce que va décider le Conseil d'État. Il va juste dire si la décision de la Ligue était juridiquement valable. Ils vont pas faire le Conseil d'État va pas émettre d'avis.
Sur deux choses, sur l'arrêt sur le classement. Et
effectivement.
Sur l'arrêt.
Mais le Conseil d'État va pas émettre d'avis.
Il va pas faire de proposition. Il faut considérer si la déclaration de Philippe a une valeur juridique. Bon, je pense que quand un Premier ministre parle...
Oui, mais c'est pas un texte de loi.
C'est pas un texte de loi, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un peu une décision.
C'est exceptionnel. Voilà.
Mmh. Et après, le classement qui a été choisi, la J28 au quotient, ça, c'est une décision purement de la Ligue. Mmh. Ils auraient très bien pu prendre la J27 ou la J19. Mmh. C'était pareil. Parce que, de toute façon, à partir du moment où il n'y avait pas de bonne solution, puisque de toute façon, les championnats n'a jamais
fini. Ça a été voté, en l'occurrence.
Oui, donc, mais je vois pas en quoi la J28 avec quotient est mieux que la J26.
Non, mais ça a été voté, en l'occurrence. Donc,
oui, mais c'est un choix arbitraire comme un autre. Ouais. Et ça, je pense que le Conseil d'État peut le casser.
Oui, il peut le casser, mais il ne va pas pour autant donner, dire ce qu'il faut faire à la place.
Non, mais ça, ça induit quelque part. C'est-à-dire que Dominique était présent, on était au Conseil d'État, on a suivi cette audience. On a bien senti quand même que le juge, ce sur quoi il était le plus ouvert et qui serait certainement le plus facile à mettre en place, c'est l'élargissement, le temps d'une saison, de la Ligue 1 à 22 clubs. Pour effectivement sauver, alors Toulouse, on pourra considérer que c'est peut-être scandaleux par rapport.
Le plus grand gagnant de l'histoire.
Mais le côté, le coup près qui est tombé sur la tête d'Amiens, parce que la pandémie est arrivée à ce moment-là, et que si elle était arrivée 3 semaines avant, Amiens était 15e. Là, pour le coup, il y avait aussi la communauté d'agglomération qui était là. Enfin, on a bien compris que pour Amiens, le ciel leur tombait sur la tête, et qu'il y avait quand même quelque part une injustice que la Ligue manifestement était obligée d'assumer, mais le Conseil d'État a semblé quand même très sensible aux arguments d'Amiens et sans que ce soit une révolution.
Globalement c'était de très haut niveau. Pendant 3 heures on a assisté et là on en revient au débat précédent. Tu peux pas balancer du jour au lendemain un ancien joueur. D'ailleurs c'est pas pour stigmatiser les joueurs.
Non,
pourrait être un journaliste, un boulanger.
C'est une vraie mission avec une
les dirigeants. Quand vous aviez les cabinets d'avocats, Jean-Michel Aulas qui est dirigeant d'entreprise depuis 30 ans. Didier Quillot, que parfois on a tendance un petit peu à caricaturer,
comme,
qui a été très bon. C'était, c'était de très haute tenue, c'était d'un haut niveau quand même.
Donc il est 19h35. Vous êtes en train de me dire tous ici ou presque que on va possiblement assister lundi au repêchage de Toulouse et d'Amiens, que la Ligue 1 la saison prochaine.
C'est envisageable. Mais c'est possible. C'est la décision du Conseil d'État.
Donc on est d'accord qu'il
faut repasser devant le Conseil d'administration de la Ligue. Soit le Conseil d'administration de la Ligue dit je refuse la décision du Conseil d'État et donc je vote le maintien de la Ligue 1 à 20. Donc là, Amiens et Toulouse retournent au Conseil d'État qui redit non, il faut passer à 22. Et donc on fait ça pendant un an.
Ouais.
Voilà, d'accord. Ça c'est la première solution qui est un peu pénible.
Ouais.
La deuxième, c'est
plus longue et pénible.
Oui, voilà, qui est longue. Et parce qu'il faut quand même commencer une saison. Et puis, ou alors le Conseil d'administration de la Ligue dit ok, on joue à 22. Mais alors là, il faut après tout décaler. Parce qu'il faut jouer la Ligue 2 à 22.
Ouais.
Et ainsi de suite, et toutes les divisions. Et donc là,
finalement, le grade démissionne.
Et je vous rappelle que si on en est là, quand même, c'est David également beaucoup grâce ou à cause, selon le point de vue, en raison de Jean-Michel Aulas.
C'est ce que j'allais dire.
Quid de Jean-Michel Aulas et de l'OL dans cette solution-là, parce que lui, c'est le danon de la farce.
C'est exceptionnel, parce que Jean-Michel Aulas, qui a été sur tous les fronts.
Sa requête, lui, c'est pour reprendre, c'est pas pour changer le classement.
Non,
je sais aussi. Non, mais lui, il veut reprendre pour changer le classement, il veut changer son terrain.
N'empêche qu'on a parlé.
Reprendre et à défaut, faire une saison blanche.
N'empêche qu'on a. Non, on a parlé beaucoup d'Amiens et de Toulouse, certes, mais on a surtout parlé de Lyon et Jean-Michel Aulas. Que lui, finalement, Amiens-Toulouse repêché, la Ligue 2 à 22, et Aulas, le dindon de la farce, comme l'a dit.
Mais je me demande si justement, c'est pas là que le conseil d'administration de la Ligue va accepter du coup ça, parce que je pense que certains se feront un plaisir de laisser Jean-Michel Aulas. Non, mais blague à part, Amiens, clairement, tout le monde est d'accord. Je pense que j'ai pas entendu une voix s'élever contre le fait qu'Amiens ne se batte pas pour rester en Ligue 1. Toulouse, c'est un peu différent. Bon, sportivement, ils se raccrocheront à Amiens, tant mieux pour eux. Mais voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde est d'accord.
C'est
Sur le classement, il y a beaucoup plus de points de vue divergents. Donc Jean-Michelas,
ils ont été sur des points juridiques qui sont hyper intelligents quand même, parce que existe dans les textes. Il y avait plein de choses qui n'existaient pas dans les règlements, mais la notion de repêchage d'un club, elle existe. Et tu peux considérer que Nîmes, qui est en position de barragiste et qui ne va pas jouer ce barrage quelque part, est de fait un peu repêché. C'est-à-dire que ne pas jouer ce match, c'est quelque part une forme de repêchage. Mmh. Donc si tu repêches Nîmes, pourquoi tu repêches pas Amiens ?
On se retrouve dans quelques secondes sur RTL avec Fred, supporter de Lyon, qui est avec nous. Baptiste Durieux, qui va également relayer des propos des supporters ou des auditeurs d'RTL sur ce que nous disons ce soir avec Dominique Sévrac du Parisien Aujourd'hui en France, David Aiello, Eric Silvestro et Philippe Sansfourche d'RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Denis Balbire sur RTL.
On refait le match.
David Aiello, Dominique Sévrac du Parisien Aujourd'hui en France, Philippe Sansfourche, Eric Silvestro d'RTL sont là, Baptiste Durieux également, et puis Fred, supporter de Lyon, qu'on va saluer avant tout. Peut-être une dernière réflexion là, Fred, sur ce qui se passe.
Oh ben non, tout simplement, je suis tout à fait en accord avec tout ce qui se dit, c'est que c'est une décision qui est difficile à prendre, c'est une situation inédite qu'on a vécue, donc forcément la décision qui sera prise ou qui seront prises ou confirmées, elles vont faire des heureux comme des malheureux. Il est clair qu'Amiens peut être très déçu par ça, mais en même temps, si on commence à repêcher Amiens, ça fait une jurisprudence sur le fait que le classement doit être modifié, donc pourquoi pas Toulouse, donc pourquoi pas Saint-Étienne, pourquoi pas Lyon, pourquoi pas tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué et que quoi qu'il arrive, la décision qui sera prise lundi ou mardi va forcément bouleverser le football français.
Oui, mais l'UEFA veut un classement parce qu'il a besoin de savoir qui est qualifié pour la Ligue des Champions, qui est qualifié pour la Ligue Europa. Donc on ne peut pas faire de saison blanche, malheureusement.
C'est pour ça que je me permets juste une dernière réflexion. Oui, c'est pour ça que en fonction de ce qui va être entériné, si vraiment la décision de la volonté de Jean-Michel Aulas c'est de faire la Ligue des Champions, ce que je dis depuis le début, c'est que ça s'est passé dans le handball, pourquoi pas faire des wildcards permettant d'avoir à certains clubs des permissions de jouer des tours préliminaires.
Alors là, Lille va dire c'est moi, c'est pas lui.
Oui, Lille, pourquoi pas aussi. Enfin,
on va donner 10 wildcards.
Non, mais l'avantage, c'est que si la Ligue des Champions n'est pas non plus sûre qu'elle pourra se terminer, même si là, maintenant, avec la pandémie qui recule, ça semble jouable. Dans tous les qualifiés qui restent en 8e et en quart, quasiment tous seront qualifiés à nouveau pour la Ligue des Champions via leur championnat. Donc l'UEFA pourrait peut-être tricher avec Lyon du fait qu'ils seront peut-être qualifiés pour les quarts de finale. Et s'ils n'ont qu'une wildcard ou deux à donner en ouverture, ça peut être jouable sans trop de discussions. Après,
franchement, pour le panache de Jean-Michel Aulas, ça serait mérité quand même.
Ouais.
Il nous a quand même permis de rester actif et éveillé.
Avec les trois.
Il faut reconnaître, on a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut reconnaître que la combativité de ce président.
Mais au Conseil d'État, avec Philippe, qu'on soit d'accord ou pas avec ses arguments, il a fait un show
exceptionnel.
72 ans. Le gars est brillant, quoi.
Ah oui,
ça, on le sait. Baptiste Durieux, pour relayer ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on dit ce soir.
Oui, ça déchaîne beaucoup les passions sur le @RTLFoot. Message de Dimitri, Ligue 1 et Conseil d'État dans la même phrase, ça prend des proportions. Bientôt, Jean-Michel Aulas va siéger au Conseil constitutionnel et reprocher au général de Gaulle de ne pas avoir anticipé les conditions de l'arrêt du championnat dans la Constitution. C'est le message de Dimitri. Ah bon, puis le message de Simon, repêcher Toulouse, pardon, mais c'est risible. Dans la pêche, on peut aussi relâcher le poisson dans l'eau. Soit on fait une Ligue 1 à 45 clubs, soit on accepte la décision, tout simplement.
Ouais, merci Baptiste. On va passer à cette décision de la Ligue, Philippe Sansfourche, qui a décrété un mercato franco-français et un retour au mercato normal, ou plutôt un mercato normal qui va se prolonger jusqu'au 1er septembre.
Oui, ça c'est une nécessité en fait pour redonner un petit peu d'air, une bouffée d'oxygène et permettre d'anticiper un petit peu au foot français de commencer à faire quelques opérations, à la fois à se préparer sportivement et puis commencer à faire quelques opérations qui vont être un peu intra Ligue 1, Ligue 2. On sait que c'est pas du tout ça qui fait le gros des apports financiers. Voilà, c'est ça. Mais ça permet d'amorcer un peu la pompe. Faudrait surtout pas, en tout cas, que ça vienne impacter le mercato d'après, qui sera le vrai mercato. Et là, il faudra vraiment que le foot français soit totalement aligné sur ce qui se fera à l'étranger, parce que c'est là que ça va jouer.
Puisque la majeure partie des ventes, elles sont faites avec l'étranger pour le
75%.
Clairement. Donc là, c'est parce qu'en France, il y a une particularité, c'est qu'il y a une DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion. Et donc voilà, elle est là pour surveiller les comptes. Et qu'au 30 juin, là, les clubs, ils doivent passer le 30 juin avec un bilan, ils essaient de le rendre le plus propre possible avec ce qui s'est passé à la crise sanitaire. Et donc, s'ils peuvent gratter 5 millions par-ci, 4 millions par-là, 8 millions par-là, vous avez vu qu'il y a un gardien de Bordeaux qui pourrait aller à Angers pour 7 millions à peu près, pas le gardien de Bordeaux, mais qui est à Nîmes aujourd'hui, mais qui appartient à Bordeaux. Et donc, ça peut faire une opération à 7,5. Et bah, pour les comptes de Bordeaux, c'est toujours bon de ramener 7,5 devant la DNCG.
Après, ce qui est compliqué, c'est que souvent pour que le mercato parte, il faut qu'il y ait un premier grand coup qui soit frappé sur la table. Là, on imagine que théoriquement, ça serait au Paris Saint-Germain de le faire, sauf qu'on sait que le Paris Saint-Germain va certainement terminer la saison avec...
Bah, ils l'ont fait, ils ont pris Icardi.
Oui, mais justement, là, on parle de franco-français. Ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien que si le Paris Saint-Germain venait à injecter 20 ou 30 millions dans sur un autre joueur du championnat de France, ça permettrait à ce club ensuite, à son tour, de distribuer, ça lancerait les choses. Mmh. Là, c'est quand même compliqué pour Paris parce qu'eux-mêmes sont dans une situation très délicate puisqu'on anticipe 200 millions d'euros de déficit.
Ça n'empêche que tu es en partie rassuré puisqu'il y a un mois, sur cette antenne, on expliquait que la moitié des clubs allaient mettre la clé sous la porte, qu'il n'y avait plus de quoi payer qui que ce soit, que les salaires, les mains des chars, etc. Et là, on parle déjà. Alors évidemment, c'est pour aider aussi certains clubs en difficulté, notamment des clubs de Ligue 2, peut-être qui vont vendre quelques joueurs vers la Ligue 1. Ce ne sera pas des sommes énormes, mais ça permettra à ces clubs d'avancer dans leur budget. Néanmoins, on part déjà, ça y est, le mercato, c'est déjà la folie. On a déjà...
Enfin, c'est la folie pour l'instant, on n'a rien.
Non, mais c'est la folie dans le sens où tout le monde, voilà, il y a Lyon qui était dans une panade financière
absolue. Non, mais il y a 5-6 clubs, Eric, qui sont
intelligemment
très, très
signé lever l'option d'achat de Toko Ekambi. Ouais. Bon, ça veut dire que quand même, il y a des bases solides qui permettent de faire des choses. Parce que moi, excuse-moi, il faut quand même pouvoir lever l'option d'achat.
Mais Lyon a des fonds propres, il l'a rappelé Jean-Michel Aulas, c'est 400 millions d'euros de fonds propres. Mais il y a quand même quelques clubs, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Lyon.
Nantes, ils ont déjà acheté 3 joueurs.
Oui, mais ils ont quand même la crise, elle est beaucoup plus impactante. Après, les perspectives sont meilleures qu'il y a un mois parce qu'on pense que le public va pouvoir revenir.
Mmh. Bah oui,
plutôt, donc, par exemple, la billetterie, ça va pouvoir être relancé. Il y a quelques perspectives qui sont bonnes.
Ouais, mais Saint-Etienne a fait signer 3 de ses joueurs du centre de formation et a signé 2 joueurs un d'Épinal, un de
Les droits télé augmentent l'année prochaine pour la Ligue 1. Mm-hmm. Peut-être que sur un an, ils vont pouvoir amortir le choc.
Surtout qu'il y a eu le prêt qui permet ça, justement. Ouais,
le prêt garanti par l'État.
Ludo, supporter de Montpellier, est avec nous justement pour parler de ce mercato franco-français. Votre avis là-dessus?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Ludo.
Ah, j'ai un retour.
Ah, c'est pas grave ça.
On l'a tous
su, on l'entendait pas deux fois.
Non, c'est bon.
Allez-y, okay.
Un plaisir de vous avoir et un bon week-end en attendant le retour de la Ligue 1 qui approche quand même, mine de rien, parce que on va passer un été avec ce mercato. Je me demande si c'est pas en fait une fausse bonne idée. Alors après, on est toujours en train de parler alors qu'il y a des gars qui essaient de mettre des choses en place, notamment à la Ligue, mais. Admettons. Alors déjà, j'aimerais bien savoir dans quelles circonstances ce mercato avancé franco-français a été présenté. Parce que moi, je vous dis rapidement mon état d'esprit. Est-ce que ça va pas, encore une fois, la phrase classique que vous connaissez, avantager les plus gros clubs? Ouais. L'avantage, en fait, moi, qui m'est venu le premier à l'esprit, c'est effectivement s'il y a des. Alors déjà. Au niveau de la Ligue 1, il y a des joueurs qui vont forcément rester s'il y a des transferts qui n'auraient pas été privilégiés à la base. Au niveau de la Ligue 1, on va garder des bons joueurs qui ont éclos, d'autres qui ont confirmé la saison dernière. Et ça, je trouve que c'est un point qui est quand même très positif pour le championnat et pour le spectacle à venir sur cette prochaine saison. Ensuite, les clubs qui sont solides financièrement, qui ont du cash, ils vont pouvoir aller faire peut-être un marché différent et ainsi avoir un mercato peut-être oui plus franco-français, comme son nom l'indique. En revanche, sur certains clubs qui étaient en construction, en restructuration, là, je pense qu'il y a toute une politique en fait avec cette crise du Covid qui est remis en cause. Il y a certains clubs là, par rapport à ce mercato, qui commencent à avoir des sueurs froides avec des prêts, avec tout ce qu'on a suivi, que ce soit les droits télé, etc. Et des clubs, je pense, qui vont être en difficulté alors qu'ils étaient sur une bonne voie de pérennisation, notamment au niveau des finances, et qui vont se faire piller. Et là, ils sont en train peut-être de se demander qu'est-ce qu'ils vont avoir comme équipe la saison prochaine, parce que en clair, enfin excusez-moi, mais on même si on sait que le 22 août il y a la Ligue 1 qui va reprendre, etc., il y a encore énormément de zones d'ombre. Le mercato en fait partie et des clubs, je ne sais pas, regardez même Toulouse Amiens, on ne sait même pas s'ils vont finalement descendre en Ligue 2. La décision va être prise pour le début de semaine prochaine et je pense qu'il y a des clubs qui naviguent à vue et j'ai peur que ça les desserve avec ce mercato avancé franco-français.
Baptiste Durieux, c'est un petit peu corroborer les propos de Ludo sur les réseaux?
Oui, non, il y a beaucoup de messages comme d'habitude, notamment Alexandre. Je suis vraiment pas sûr que ça donne quelque chose vu les incertitudes autour de la reprise, autour du budget des matchs à huis clos ou pas, c'est le message d'Alexandre. Et puis Brian aussi sur le compte Twitter RTL Foot. Soit le PSG achète un joueur à 45 millions pour chaque club de Ligue 1, soit cette décision ne sert à rien tout simplement, même si l'esprit est louable, nous dit Brian.
On va passer des millions aux milliards dans quelques instants, on se retrouve jusqu'à 20h. Nous parlerons de Cristiano Ronaldo qui rentre dans le cercle fermé des sportifs les mieux payés au monde. milliardaire après 17 ans de carrière. Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France,
encore
n'est pas encore milliardaire, mais de vous avoir, c'est une sorte de richesse. David Aiello, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL sont avec
nous. Un investissement.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h, on refait le match avec Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, David Aiello, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL, Cristiano Ronaldo, nouveau milliardaire selon le magazine Forbes. C'est la première fois qu'un footballeur dépasse la barre du milliard en revenus empochés dans sa carrière avant impôts. 35 ans, 5 fois Ballon d'Or France Football, 17 ans de carrière, 4 Ligues des Champions. La marque CR7, Eric Silvestro, RTL.
Eh ben moi j'ai envie de dire, je suis content qu'il soit milliardaire. Et presque heureusement qu'il est milliardaire. Je sais, ça va choquer évidemment
ça
plein de monde.
Ça te choque pas ?
Mais non, parce que pour moi, Ronaldo. Non mais il y a des joueurs Ronaldo, Messi ou comme il y a eu les Jordan en basket ou ces gens-là, pour moi ça ne me choque pas qu'ils gagnent des millions et voire même des milliards. Ce sont des gens qui font ils font tout en fait dans leur sport. Ils font la performance, ils font la publicité, ils font la communication, ils font l'industrie, ils font l'économie, ils font tout. C'est-à-dire que ces gens-là, eux qui gagnent énormément d'argent, ça ne me pose aucun problème. Ronaldo, il s'est pas planqué, il les a mérités ses ballons d'or, il les a mérités ses buts, il les a mérités ses salaires. Évidemment, pour l'ouvrier, c'est un salaire qui est scandaleux. Mais pour moi, ils font tourner l'économie de tellement de choses en même temps que ça ne me choque pas. Moi, ce qui me choque plus, c'est un joueur de Ligue 1 moyen qui a 20 matchs en Ligue 1, qui a rien fait de sa vie et qui gagne 200 000 euros par mois. Ça, je trouve ça choquant.
Mais, Eric,
mais que Ronaldo soit milliardaire, ça me choque pas.
Mais quelque part, Eric, l'industrie du sport aujourd'hui dans le monde, c'est 1 000 milliards. Donc, à un moment, il faut bien que cet argent, elle circule, et même le joueur moyen, bon, effectivement, peut-être qu'il y a à la marge des choses à regarder, mais il faut bien que les joueurs qui sont au cœur du jeu récupèrent une partie non négligeable de cet argent. Puisqu'il y a, enfin, le problème pour moi, parce que la question, c'est est-ce que ça vous choque ? Moi, ça ne me choque pas. On peut discuter du fait, est-ce qu'il y a trop d'argent dans le sport ? Ça, oui. Mais par contre, se demander est-ce que les joueurs touchent trop d'argent ? Non, c'est logique.
Alors, c'est pas les joueurs, c'est Cristiano Ronaldo.
Oui, mais de manière générale, je veux dire, les joueurs touchent beaucoup d'argent. Oui, mais il y a beaucoup d'argent dans
David,
le sport.
Philippe Sanfourche, la crise du moment, là, elle a révélé quoi ? Elle a révélé que tu arrêtes des championnats pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et tout le monde est dans le rouge, tout de suite. Pourquoi dans le rouge ? Parce que les masses salariales sont trop importantes.
Et que les charges
quand
aussi.
Tu as... Oui, enfin, ça va te perdre.
Ouais, mais le problème
quand
en France, c'est les charges aussi.
Décide d'instaurer le chômage partiel, vous avez des entreprises qui ont des capitaux autrement plus importants que ceux des clubs de foot, qui se retrouvent avec une masse salariale qui est réduite immédiatement par ces mesures, parce qu'il y a des plafonds. C'est-à-dire que si tu as 10 000 salariés qui gagnent 3 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois, eh ben c'est pris en charge par l'État. Alors que si tu as 25 joueurs qui sont à 800 000 ou 1 million d'euros par mois, là l'État il prend rien, il prend 5 000
euros.
C'est les charges les clubs ils passent au chômage partiel pour les joueurs parce que c'est 8 à 4 fois le SMIC. C'est parce que
mais il reste quand même 70% à payer pour les clubs.
Tu payes pas les charges. C'est ça qui est l'économie du Paris Saint-Germain, de Lyon. C'est ça qu'ils ont essayé de faire en passant par le chômage.
Mais très bien. Mais il reste quand même une très lourde part du salaire des joueurs.
Bien sûr.
À payer.
D'où les pertes de 206 millions d'euros du PSG.
Ce qui montre bien que tu es dans un système économique qui est extrêmement fragile du fait de cette masse salariale qui est très importante. Donc moi, je pense que ce qui était déjà, à mon avis, valeureux pour d'autres raisons, cette histoire de salary cap, où tu aurais des salaires qui seraient encadrés, qui seraient des très bons salaires, mais qui ne seraient pas totalement délirants, comme on le voit aujourd'hui, pour des joueurs moyens. Mmh. Et puis... tu te réserves de manière contractuelle pour 2 ou 3 joueurs stars qui sont les joueurs qui te font gagner sur le terrain et les joueurs qui font que mondialement tu as une marque qui explose et que le football est ce qu'il est avec toute sa puissance. Là, tu es dans une réalité économique.
Est-ce que le sport génère trop d'argent ? Est-ce que c'est devenu un business ou est-ce que c'est du sport ? Donc ça, c'est la question de fond. On pourrait en discuter 4 heures. Après, que l'argent... des footballeurs aillent un peu aux footballeurs, quand ils sont talentueux, c'est pas vraiment choquant. C'est un milieu où tout le monde essaye de croquer. Il y a des requins qui circulent, il y a des agents, je sais pas d'où ils sortent, je sais même pas quelles études ils ont faites, quelles qualifications ils ont. Il y a des gens, il y a des présidents de clubs qui se servent des dividendes avec des clubs qui sont nuls, ils recrutent très mal, ils sont nullissimes et on les a vus pendant la crise, je donnerai pas les noms. Donc que l'argent du football aille parfois aux footballeurs, bah c'est pas très choquant en fait.
Et surtout à cela.
Non, parce que du coup, Philippe, si on installe un
salarié, David Aiello,
il va y avoir un gain d'argent. À qui va profiter cet argent ? Si on paye moins cher les footballeurs ?
Eh ben, demande à Luis Fernandez, on va redistribuer aux amateurs.
Swell est avec nous pour parler de Cristiano Ronaldo, milliardaire. Swell.
Oui, bonsoir messieurs, merci bonsoir. De me donner la parole ce soir et merci à Baptiste. Alors oui, Cristiano Ronaldo, milliardaire, Cristiano le joueur, puisqu'il gagne 32 millions par an, c'est le premier salaire à la Juve, le deuxième c'est Higuain, seulement 7 millions d'euros. Alors est-ce que ça nous choque? Non. Maintenant moi j'ai envie de mettre l'accent sur le businessman qui est Cristiano Ronaldo, il a compris comment gagner sa vie avec le football. Aujourd'hui Ronaldo gagne plus d'argent grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire 40 millions environ sur Instagram, que sur le football, 32 millions d'euros. Alors
on va rappeler, Souhel, qu'il a 222 millions de followers sur Instagram.
Oui, mais comme tout le monde, regardez, cette semaine a été publié le classement. Non, mais comme tout le monde, les sportifs. Aujourd'hui, les revenus principaux de Neymar, de Messi, de Ronaldo et de tous les sportifs, ce sont les sponsors et les contrats. C'est valable dans tous les sports. Le numéro 1 au classement Forbes des sportifs les mieux payés, c'est Federer pour la première fois, qui est devant Messi et Ronaldo. 95% de ses revenus ne sont pas liés au tennis et aux résultats. Bon, ben voilà, c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui.
Souhel est avec nous, allez-y.
Oui, évidemment, mais de toute façon, je pense que Cristiano Ronaldo a tout à fait compris comment fonctionnait le football, et aujourd'hui, un footballeur, là où le football n'a jamais été aussi riche qu'en 2020, excepté la crise sanitaire du Covid, le football n'a jamais été aussi riche, et Cristiano a compris comment tirer ses revenus, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux, etc. Et il a signé aussi un contrat à vie avec Nike en 2016. Ça révèle aussi l'importance qu'on donne à Cristiano Ronaldo sur le terrain et hors du terrain aussi. Aujourd'hui, Ronaldo, c'est une véritable marque. Il a une chaîne de vêtements, une chaîne d'hôtels, il a tout, et il a préparé son après-carrière pour qu'on continue à parler de lui et à faire parler de lui après sa carrière de football.
Mais après, ça enfante un peu.
Tous les plus grands athlètes, c'est comme ça.
Mais ça enfante un peu des monstres quand même.
Dominique Sévrac, le Parisien.
Ça enfante un peu des monstres parce que ce sont des joueurs qui sont plus forts que. Est-ce que Messi, c'est pas au-dessus du Barça finalement? Est-ce que Cristiano Ronaldo n'est pas au-dessus du Real et de la Juve? Est-ce que c'est pas des marques en soi qui deviennent plus fortes que les clubs qui les emploient?
Oui, mais c'est au club d'être meilleur.
David Aiello.
Après, c'est surtout valable pour Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain. Non, les clubs comme le Real et la Juve sont suffisamment costauds.
Mbappé, il ne fait pas pas la zizanie. Mais est-ce que Messi, par exemple, s'il n'est pas d'accord au Barça, est-ce que le board va pouvoir s'opposer à lui?
Pas évident, oui.
Sans doute pas. Ils essaieront pas de toute façon.
Souhel, un dernier mot sur Cristiano, parce que vous êtes vraiment impliqué avec lui au niveau français, au niveau des réseaux sociaux.
Oui, évidemment, je veux faire cette insight pour Twitter, ceux qui connaissent, bonjour à tous. Pour terminer, moi j'avais juste un petit mot à dire. Il y avait une professeure à Cristiano, pour l'anecdote, quand il était tout jeune, qui lui avait dit « tu ne mangeras jamais grâce au football », et aujourd'hui il est milliardaire, alors bon, plaisir.
Ouais,
c'est juste pour l'anecdote.
C'est un beau clin d'œil.
Finissons en disant qu'il est encore surtout très performant sur le terrain.
Exact, et très travailleur, et très passionné.
Non, mais parce qu'il faut le préciser.
Ça c'est important.
C'est pas mauvais joueur, il joue encore il marque.
Il a un truc.
Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité, si tout va bien, Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon, qui sera avec
pourquoi
nous.
Ça irait pas.
Ah on sait pas avec Lyon, avec le Conseil d'État, avec les revirements de situation.
Ah bah, si on prend, c'est l'homme qu'il faut avoir. Hein.
Mais Rudy Garcia sera avec nous, je le sais. Ce sera samedi prochain.
C'est sur entraînement, ça va être quelque chose.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À samedi, merci de votre confiance et de votre fidélité. À tout à l'heure.
Grosse flemme de bouger, mais une super envie d'écouter RTL avec votre enceinte connectée. Inutile de vous déplacer du canapé, vous dites simplement « Alexa, lance RTL » et le tour est joué.